Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, c'est Sporama sur notre antenne. On va refaire avec vous l'actualité sportive, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook VOA Afrique. Près de 3 millions de fans. On continue la conversation. Vous pouvez également nous appeler le numéro de téléphone, le 001 202 619 31 40. 001 202 619 31 40. Nous avons Georges Léonard Sagnot et Fred Nerkayemid qui sont là derrière la vitre pour prendre vos appels. Allez, on va saluer évidemment nos intervenants comme chaque semaine. On va d'abord saluer à Libreville Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on va faire un coucou à Élisée Ungpatine depuis Boricon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Allez messieurs, on va évidemment parler de la compétition continentale qui a débuté en Zambie hier. C'est bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et les matchs ont eu lieu ce lundi. Les matchs du groupe B, Soudan-Sénégal, un but partout. Le Sénégal a joué à 10 pendant 75 minutes. Et puis la belle performance des Sud-Africains menés 1-0 par le Cameroun. Les Bafana Bafana qui réussissent à l'emporter 3 buts 1. On va d'abord se tourner évidemment vers notre ami Amdinsi, on me fait signe qu'on ne l'a pas toujours en ligne. Est-ce que Amdinsi est avec nous en direct? Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas Pinon et bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Alors Amédine, on le disait, hein, le Sénégal tenu en échec par le Soudan, un but partout. Que s'est-il passé? Les Lions de la Teranga qui ont joué à 10 hein, pendant 75 minutes de jeu. Hein.
Tout à fait Nicolas Pinon, les Lions du Sénégal l'ont échappé bel. Hein. Ils ont été menés par 1-0 et ils ont égalisé presque à 2 minutes de la fin de la rencontre. Il faut dire que c'est un match cauchemardesque pour les poulains de Jules Koutou parce que aujourd'hui le Sénégal a eu affaire à un arbitre vraiment corrompu parce que on ne peut pas comprendre ce qu'il a fait en début de partie. Non seulement il a sorti un carton rouge pour le capitaine de cette équipe nationale du Sénégal, Diarra, sur une faute qui n'est pas du tout évidente. 2 minutes après, il offre un pénalty à cette équipe soudanaise. Mais les gosses de Jules Koutou ont eu de la ressource, le mental également, et ils sont revenus en force dans ce match pour égaliser. Il faut le dire, ils l'ont échappé belle parce que les Soudanais aussi avaient à plusieurs reprises l'occasion quand même de tuer ce match, mais ils ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, l'arbitrage a été quand même le maillon faible de ce match. Il faut dire que le Sénégal fait partie des favoris parce que le Sénégal a été finaliste de la dernière édition. Le Sénégal est demi-finaliste également de la Coupe du Monde des U20. Donc le Sénégal est bien parti pour se qualifier. Mais il va falloir sortir le grand jeu face au Cameroun, mais face également au Bafana Bafana d'Afrique du Sud.
Merci beaucoup Amdine. Si on le disait, mauvais arbitrage hein, selon Amdine sur ce match. On va continuer avec vous messieurs, on le disait, Élisée Ungpatine hein, évidemment. Il y a eu les matchs du groupe A, c'était dimanche, le match d'ouverture et une défaite peut-être un peu inattendue hein, du Sili National. La Guinée battue 1-0 par le pays organisateur, la Zambie. Les Zambiens qui ont ouvert le score en début de deuxième mi-temps par Patson Daka. Et puis, peut-être le gros match de ce dimanche, c'était l'Égypte face au Mali. Et là, il y a eu match nul 0-0, Élisée. Hein.
Oui, c'était un match très attendu, hein, Nicolas, puisque les deux formations ont des valeurs hein, à vendre durant cette compétition. L'Égypte a remporté cette Coupe d'Afrique junior déjà à 3 reprises. Il faut le dire, les Maliens ont aussi des centres de formation qui ont de la valeur. Les Maliens ont souvent démontré hein, dans ces catégories d'âge qu'ils ont une très bonne sélection. Et les deux sélections égyptiennes et maliennes hein, se sont rendues coup pour coup avec beaucoup de tactiques. Hein. On a vu, c'est vrai qu'à un moment donné, les Égyptiens pouvaient marquer, mais c'était sans compter sur la détermination des Maliens qui sont venus justement du côté de Lusaka pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations puisque c'était l'objectif fixé. Maintenant, il reste encore 2 matchs. Hein. Les Zambiens sont à domicile, poussés par le 12e homme. Donc ça va être très très difficile, encore que ces Zambiens sont en tête dans ce groupe.
Et oui, les Zambiens qui sont en tête, 3 points hein, devant le Mali et l'Égypte, 1 point chacun. Et la Guinée qui ferme la marche à la 4e place. On le disait cette année, hein, Jules Valentin-Goué, hein, le tenant du titre, le Nigeria, la nation la plus titrée, ne participe pas à cette CAN hein, des moins de 20 ans.
Oui, le Nigeria ne participe pas. On ne voit pas apparaître le Ghana non plus. Et donc, en fait, c'est un renouvellement de cadre, mais il ne faut pas pour autant croire que le casting est négligeable, parce que pour la plupart des pays qui sont là-bas, ce sont des grands pays de formation, à savoir le Mali, l'Égypte, l'Afrique du Sud, et dans une moindre mesure peut-être le Cameroun ou le Sénégal. Bon, donc automatiquement, le niveau est bien relevé et on s'attend à ce qu'il y ait une bonne compétition.
Merci beaucoup. On rappelle évidemment les matchs à suivre. Ce sera mercredi dans le groupe A. Guinée, Égypte et Mali, Zambie. Allez, on est toujours sur VOA Afrique, c'est Sporama et on parle à présent de la tournée du africaine du président de la FIFA, Gianni Infantino. Gianni Infantino qui avait débuté son périple la semaine dernière en Afrique du Sud, puis le Zimbabwe, le Rwanda et l'Ouganda ce week-end pour finalement arriver à Niamey ce lundi. Le président de la FIFA qui visite plusieurs installations qui ont été construites et financées par la FIFA pour faire le point sur cette visite. J'ai joint le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel Amidou.
Écoutez, pour tout président de fédération, je crois que c'est une fierté d'accueillir quand même le président de la FIFA qui est notre maison mère. C'est une visite, comme j'ai dit, pour l'inauguration des infrastructures que la FIFA a construites dans notre pays, du centre technique national de la Fédération nigérienne de football qui a été financé sur fonds FIFA. C'est une visite qui était programmée depuis longtemps, hein, donc qui ne fait que concrétiser. Elle a été simplement retardée parce que nous n'étions pas encore prêts. Les infrastructures n'étaient pas finies, et notamment et particulièrement de l'hôtel du centre technique. Un nouvel hôtel qui a été construit pour l'hébergement des grandes équipes.
Sur le débat, vous, de la Coupe du Monde à 48 équipes, l'Afrique qui va avoir une plus grande place, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça normal?
Si l'Afrique doit bénéficier de plus de places, je ne peux que trouver ça normal. D'abord, il faudra que les gens sachent que ce n'est pas pour l'immédiat, ce n'est pas pour la Coupe du Monde 2018 ou 2022. C'est pour la Coupe du Monde 2026, donc on a le temps de voir venir. Je pense qu'auparavant, des années auparavant, quand la Coupe du Monde se jouait et qu'elle se jouait à 16, quand il fallait passer à 32, les gens avaient eu les mêmes genres de débats et les mêmes appréhensions. Pourtant, ça n'a pas dénaturé la Coupe du Monde, à ce que je sache. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on passe à 48. Si des techniciens ont pris le temps d'étudier ça et dire que ça peut se faire, c'est que c'est faisable.
Voilà, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel Amidou, que j'ai joint ce soir à Niamey. Allez, on va poser le débat ce soir, évidemment, sur VO Afrique. Cette Coupe du Monde 2026, c'est 48 équipes. On parlerait actuellement de 16 poules de 3 équipes. On va évidemment en parler avec vous. Jules Valentango et l'Afrique qui aurait 9 places sur ce scénario. L'Afrique qui aimerait, c'est Danny Jordan, hein, le président de la Fédération sud-africaine de football, qui le disait la semaine dernière, qui aimerait avoir une 10e place. Est-ce que finalement, plus deux pays africains, ça signifie une meilleure représentation des pays africains dans une phase finale?
Oui, mais de toutes les façons, il y a deux volets. Il y a le volet purement sportif avec la représentation de ces équipes. Il y a le volet aussi financier. Il ne faut pas oublier que la participation à la Coupe du Monde, ce n'est pas rien. Et ça peut booster le football d'un pays. Et l'Afrique, c'est à la matière première en ce qui concerne le vivier de footballeurs, c'est la matière première africaine est appréciée. Et donc, si on s'en tient seulement à la dernière CAN qui vient de se dérouler, je crois qu'on ne s'attendait pas à voir des équipes de qualité comme la Guinée-Bissau ou le Zimbabwe qui nous ont présenté un football vraiment très alléchant. Et donc, une telle initiative ne pourrait que donner plus de chances de construire le football africain. Je crois que la balle est du côté des Africains. Ils doivent soigner l'organisation, ils doivent rationaliser la préparation et la croissance du football national. Mais sinon, c'est un challenge qui est lancé et on peut facilement le relever si on est sérieux.
Oui, justement, vous, quel est votre avis, Élisée Oumpatine? On parle de cette Coupe du Monde à 48 pays. Est-ce que ça veut dire forcément plus d'équipes africaines, on va dire en quart de finale, voire en demi-finale? Parce que si on tombe dans des groupes très difficiles, on a beau avoir 10 représentants. Si on tombe sur l'Allemagne ou l'Argentine, par exemple, dans chaque groupe, pas facile, hein?
Non, on ne peut pas retrouver deux grosses nations de football dans une même poule, puisqu'il y a, le chapeau, les têtes de poule. Donc,
non, évidemment, Élisée. Évidemment,
c'est la sélection moyenne, forcément. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément l'Afrique va qualifier pour les demi-finales. Jules l'a dit, il faut une bonne organisation pour les Africains pour pouvoir aller très loin dans cette compétition, puisque non seulement l'Afrique aura 9 places, hein, même si on en demande 10, l'Europe aussi verra augmenter hein, le nombre de participants, tout comme l'Asie ou l'Océanie. Donc, sur ce point-là, tous les continents hein, se verront aussi le nombre de participants augmenter. Maintenant, c'est à l'Afrique hein, de se réorganiser, de revoir hein, comment faire pour pouvoir aller très loin. Parce qu'une chose est sûre, c'est d'avoir plus le nombre de participants. Mais l'autre chose, aussi, l'autre chose également, c'est de bien vouloir aborder hein, cette Coupe du Monde et d'aller très très loin, puisque ça reste encore du côté jeu. L'Afrique reste encore en dessous, hein. il faut le dire clairement, Nicolas.
Merci beaucoup, Élisée. On va prendre un appel depuis N'Djamena. Archeduc, qui nous appelle de N'Djamena, bonsoir.
Bonsoir la VOA et bonsoir à tous ceux qui connaissent Archeduc Théodore.
Voilà, alors Théodore, qu'est-ce que vous pensez de ce passage à 48 équipes pour la Coupe du Monde 2026?
Oui, la tournée de Gini en continu en Afrique pour la promotion de la Coupe à 46 équipes demeure salutaire. Agrandir le champ de jeu rend cette Coupe plus compétitive. C'est aussi offrir plus de chance à l'Afrique. Et cela fera entrer assez de l'argent. Et tant plus qu'il y aura assez de matchs, et ces matchs vont générer des revenus. Donc, pour moi, je suis vraiment favorable et c'est une très bonne chose.
Très bien. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On va poser la question également à Amdine Sy. Amdine, cette visite aussi, elle intervient dans le cadre de la campagne hein, présidentielle pour la FIFA, hein, pour la CAF, pardon. Élection du 8 mars à laquelle se présente évidemment, élection du 16 mars, pardon, à laquelle se présente pour la 8e fois pour sa succession Issa Hayatou. Et on a fait un reproche à Gianni Infantino. On lui reproche finalement de s'être déplacé dans les pays de la COSAFA, les pays qui vont voter notamment pour le candidat malgache Ahmad Ahmad. Et on soupçonne évidemment Gianni Infantino d'envoyer un message sur cette visite. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce 8e mandat possible pour Issa Hayatou et Gianni Infantino qui enverrait un signal pour son opposant?
Non, moi je pense que Issa Hayatou ne devait même pas se prononcer. Ce sera un mandat de trop parce qu'un président de la CAF qui parvient à dormir au niveau de la loge officielle, cela prouve ce que cela prouve, quoi, parce qu'on est en fort, il faut savoir arrêter alors qu'il est temps. Et ça est, je pense que ce sont les présidents des fédérations, des autres pays, des pays africains, hein, qui doivent se lever comme un seul homme pour le combattre, pour lui dire assez, c'est assez, parce qu'avec Blatter, c'était la même chose, vous avez vu ce qui s'est passé avec Blatter, lorsque quand même des responsables du football se sont levés pour dire arrêter. Et ils vont arrêter, c'est ça. Pour revenir un peu à la Coupe du Monde, à 48 équipes, Nicolas, je dirais que c'est une bonne chose parce que le Mondial, c'est le deuxième événement sportif planétaire après les Jeux Olympiques. Et si on regarde quand même tous les pays qui sont dans le monde, je pense que c'est nécessaire quand même d'augmenter parce qu'au début, la Coupe du Monde, c'était 13 équipes. C'est passé de 13 à 24 équipes et puis de 24 à 32 équipes. Je pense que maintenant, il est temps pour qu'on augmente, pour permettre aux petits pays quand même, aux petites nations quand même, de participer à cette grande messe du football mondial. Et Jules Valentin l'a dit, hein, il y a aussi les retombées, parce que si on organise cette Coupe du Monde à 48 équipes, il y aura 640 millions de dollars supplémentaires de recettes. Je pense que les recettes vont non seulement aider la FIFA, mais aussi les fédérations africaines et aussi la CAF. Donc, c'est une bonne chose pour le sport, mais également pour, sur le plan financier, Nicolas Pinon.
Oui, on va peut-être suivre ce débat. Jules Valentin Gouet, le 8e mandat possible, probable, d'Issa Hayatou. Qu'en pensez-vous?
C'est vraiment un problème difficile. Et dans la mesure où on comprend un peu l'état d'esprit d'Issa Hayatou, quelqu'un qui a été président de la FIFA, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas très longtemps, et qui a pu gérer le football mondial, ne serait-ce que pendant cet intermède, et se croit capable de continuer à gérer la Confédération africaine de football pour un mandat. Donc, c'est un peu l'état d'esprit. Et peut-être qu'il se réfère aussi à ses prédécesseurs, comme Tessema, qui sont morts au poste. On ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est aux fédérations de faire la différence et de se dire s'il faut continuer avec Ayatou ou alors s'il faut tourner une page et penser à l'avenir.
Ouais, stop ou encore, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Élisée Oungpatine, et notamment hein, le profil d'Armad Armad, président d'une petite fédération, la fédération malgache, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que Madagascar n'a jamais pris part à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais les Malgaches ont pris part à chaque fois aux éliminatoires, même à la Coupe du Monde, et son président a aussi de la valeur, et surtout que il ne faut pas oublier, Nicolas, COSAFA, cette zone, c'est une zone qui organise régulièrement une compétition pour les équipes seniors, mais aussi pour les catégories d'âge. Donc, il y a la COSAFA Castle Cup hein, qui s'organise chaque année et qui se joue dans cette région. Donc, ils ont une organisation. Et si cette région hein, décide de supporter le Malga, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, l'autre chose, on reproche hein, à Infantino hein, de se déplacer uniquement dans cette zone. Il faut le dire, hein, Nicolas, que Infantino sera aussi à Kéré et aussi à Nouakchott. Donc, il a déjà programmé hein, ces rendez-vous-là avant que tout ça n'arrive. Donc, c'est dire que quelque part, Issa Ayatou, et Jules l'a dit, c'est aux fédérations de faire maintenant la différence, de choisir celui qui peut diriger la destinée de notre football, puisqu'il est temps que les choses changent et qu'il y aura une organisation pour que le football africain émerge plus que jamais.
Allez, on va prendre un autre appel, Omar, qui nous appelle de Djibouti. Bonsoir.
Oui, bonsoir tout à fait. Je suis à Djibouti. Mais moi, je crois que ce qui est très important, c'est l'alternance. Parce que lorsqu'il y a alternance, il y a de nouvelles idées qui apparaissent. Donc peut-être il faut changer le président du CAF. Il faut choisir un jeune qui est dynamique, qui va apporter au continent des choses qui sont nouvelles, qui va apporter le dynamisme footballistique. Et en ce qui concerne l'augmentation des effectifs en Coupe du Monde, c'est quelque chose de très important. Par exemple, nous, à Djibouti, on rêve toujours à participer aux Coupes du Monde. Il y a l'Éthiopie aussi. Donc, toute cette zone-là géographique, il peut participer de plus en plus aux compétitions internationales. Donc, oui, l'alternance possible, des nouveaux idées aussi. Des nouveaux idées, c'est très important, quoi.
Oui, et on parlait avec Jules Valentin hein, de l'expérience, évidemment, d'Issa Ayatou, qui a même été président de la FIFA par intérim. Est-ce que ça compte, selon vous?
Oui, l'expérience compte, mais l'homme fatigue aussi, hein, parce que de plus en plus, lorsque l'homme est actif, et les années passent, et il devient de plus en plus biaisé, quoi. Donc, oui, il faut avoir des gens qui sont nouveaux, des leaders, et qui pensent surtout à ces domaines, de développer ces domaines-là, forts, et qui ont un bon cœur, et qui ne regardent même pas du côté lucratif, mais l'avancée du continent, parce que l'Afrique vise d'être l'émergence, donc il faut avoir l'émergence dans le football aussi.
Et alors là, comment vous suivez VOA Afrique là, depuis Djibouti?
Oui, on suit, hein, surtout le matin, moi je suis un fan et aussi un fidèle auditeur, hein. On suit souvent. Et
vous suivez par Internet?
Non, mais il y a la radio aussi. Hein.
Vous suivez sur en FM, possible, d'accord.
La radio aussi.
Très bien, bah, écoutez Omar, merci beaucoup de nous avoir appelé depuis Djibouti sur VOA Afrique. When the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place. Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel. Allez, on est toujours sur VOA Afrique. C'est Sporama. On parle à présent de cyclisme, hein, puisqu'a débuté évidemment la 12e édition de la Tropicale Amissa Bongo. C'est au Gabon. Hein. Course cycliste qui est partie ce lundi de Moanda, évidemment sans l'équipe du Gabon, mais elle a vu la victoire de l'Espagnol Mikel Aristide Garbodi de l'équipe d'Elco Marseille Provence KTM. On rappelle hein, que le peloton est composé de 5 équipes professionnelles et de 10 sélections nationales africaines. Ils ont débuté les hostilités. Alors, pas l'équipe du Gabon. Pourquoi, Jules Valentin Gouet?
Oui, mais il faut le dire, ça c'est un classique des tours africains. Donc, automatiquement, il devait se tenir, mais tout dépend de la préparation des équipes. Alors, si une équipe ne s'est pas préparée et elle ne va pas faire que de la figuration, donc sur le plan sportif, quoi que cela puisse choquer, même le public local, faut se présenter pour essayer de gagner.
Et ouais, on a même une équipe japonaise qui est présente cette année, Interpro Cycling Academy. On a une équipe biélorusse du Minsk Cycling Club et encore une équipe française, on l'a dit, Delco Marseille Provence KTM. On va revenir avec vous, Élisée Ungpatine. Voilà, une valeur sûre, la Tropicale Amissa Bongo, 12e édition. Ce n'est pas le Tour du Faso, mais ça compte évidemment sur le continent pour les cyclistes.
Bien évidemment, du point de vue organisationnel, c'est presque, pratiquement le meilleur tour du continent. C'est vrai que en matière de d'organisation, c'est le meilleur tour. Je l'ai dit tantôt, même si le Burkina Faso reste à ne pas négliger, la Tropicale Amissa Bongo est organisée régulièrement par les Français, il faut le dire. C'est en matière de logistique, c'est très bien organisé, et même en matière de couverture, c'est suivi sur toute l'Afrique, il faut le dire, Nicolas. Maintenant, il faut dire que la déception qui m'anime, c'est bien sûr que les cyclistes gabonais ont boycotté cette première étape. Et Nicolas, il faut le dire, ce n'est pas la première fois, puisqu'ils réclament les primes, et surtout, ils dénoncent un manque de matériel adéquat pour cette compétition la plus relevée d'Afrique, je l'ai dit tantôt, parce que mettant en compétition des coureurs professionnels et cyclistes amateurs. Donc, c'est des choses qu'on rencontre souvent en Afrique. C'est dommage, sinon, c'est un très bon tour et organisé par les experts, je l'ai dit. Donc, on ne peut que saluer ces organisateurs-là pour que pour les prochaines fois, qu'on puisse voir des Africains remporter ce tour.
Merci beaucoup. On rappelle la Tropicale Amissa Bongo, la première étape remportée par l'Espagnol Mikel Aristi Gardoqui. Allez, en bref, tout le monde a vibré, évidemment, pour le classico français. 5-1, on a sorti la chicotte du côté des Parisiens. Les Marseillais ont souffert. Vous êtes en France, Mdinsi, match spectaculaire. Et il n'y avait pas photo au stade Vélodrome. Grosse victoire des Parisiens.
On a fait qu'une bouchée de Marseille au stade Vélodrome. C'est une humiliation. Certains n'ont pas été à dire que les Parisiens ont été droit au but. Pour reprendre un peu les Marseillais, le slogan des Marseillais. Mais si on regarde quand même ce match, on se dit que le Paris Saint-Germain est en train de prendre vraiment de la hauteur par rapport à ses performances, parce qu'on a vu ce qui s'est passé contre le FC Barcelone, mais on croyait que bon, c'était un match exceptionnel qu'ils ont livré. Mais ce qu'ils ont montré hier face au Paris Saint-Germain prouve que le Paris Saint-Germain est en train de devenir un grand club au niveau quand même européen. Je pense que le FC Barcelone, mon équipe favori, est averti. Les Parisiens sont dans une très grande forme, Nicolas Pignon.
Oui, les Ungpatine, on a vibré sur ce match. Edinson Cavani, encore buteur, malgré les critiques en début de saison, il est présent, le buteur uruguayen. Élisée, est-ce que vous nous entendez?
Gallo qui joue en Serie A, qui est à 21, Messi à 20. Donc, c'est-à-dire que le pari, entre Paris et Marseille, il y a une nette différence. Les Marseillais ont perdu contre les grosses équipes dans ce championnat, notamment 4-0 contre Montpellier, 3-0 contre Lyon. C'est-à-dire que les Marseillais ont encore beaucoup de problèmes. Mais Franck Macou, le nouveau propriétaire, l'a dit, à partir de la saison prochaine, il y aura beaucoup de recrutement et Marseille pourra retrouver encore son niveau d'antan des années 90. Pourquoi pas aller remporter une fois la Ligue des Champions, le seul club à l'avoir remporté jusqu'à présent.
Eh oui, Marseille, le seul club français. Jules Valentin, sur votre prise de position sur ce match classico et la gifle parisienne à Marseille.
Oui, mais cela traduit tout simplement la différence de niveau. On sait que dans le championnat français, qui jusque-là était un championnat animé de manière interne, les seuls clubs qui se sont mondialisés réellement sont Paris et Monaco. Et ce n'est pas par hasard que ces clubs brillent sur les terrains européens. Donc, face à un Marseille qui est en pleine reconstruction et qui n'a pas encore retrouvé ses marques, et donc il y avait difficilement, disons, la possibilité pour les Marseillais de jouer réellement un classico face au Paris Saint-Germain. Le score est logique.
Score logique. Allez, on va vous donner des résultats de NBA. le championnat de basket nord-américain. Avec 21 points dans le seul dernier quart-temps, Russell Westbrook a signé un 29e triple-double cette saison lors de la victoire d'Oklahoma City contre la Nouvelle-Orléans. Victoire 118-110. Quant aux Clippers de Los Angeles, ils ont été poussés à la prolongation avant de battre Charlotte 124-121. Et l'autre franchise de Los Angeles, ça va évidemment moins bien pour les Lakers qui ont subi cette fois la loi de San Antonio. Une défaite 98-119. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette émission Sporama sur VOA Afrique, comme tous les lundis soirs. On va remercier à Boycon au Bénin, Élisée Mpatine. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Un coucou également à Jules Valentangoé à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Et un bonsoir à Amdinsi qui était avec nous en direct depuis la France. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas Pinon et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Allez, on va remercier évidemment Georges Léonard Sagnot, Fred Nerkaïmit à la mise en onde. Audrius Rigus était à la console. Merci à tous pour votre fidélité. C'était Sporama sur VOA Afrique. On continue la conversation sur notre page Facebook. Déjà 3 millions de fans et également sur notre site internet voaafrique.com.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.